Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. Une belle semaine de merde qu'on vient de vivre, ouais. Dominici, puis Maradona nous ont quittés. Deux artistes, deux gars qui ont révolutionné leur sport. L'un était le représentant de notre French Flair, ce petit défiant tous les Golgothes de la terre entière. L'autre était tout simplement l'un des plus grands, et pour certains bien entendu, le plus grand. Le sport permet ça, il permet à des personnes n'étant pas apparemment dans les standards de quand même réussir. Dominici ou Maradona, c'était les petits ou les moins physiques. Au moindre contact, ils pouvaient exploser. Mais grâce à leur ingéniosité et surtout leur technique hors du commun, ils s'en ont sortis et sont devenus des légendes. Je fais juste cette intro après l'interview avec Maxime Marchand et Pierre Boisson. Et c'est Maxime qui a parlé de pourquoi on aimait un sportif. Et c'est pour ça. Parce qu'il paraît comme tout le monde, mais il n'est pas comme tout le monde. Et Dominici et Maradona n'étaient pas comme tout le monde. Bonne route les gars. Justement, avec la route, on part sur un nouveau sujet jamais traité, les médias. Comment ça marche un média sur la course à pied? Et j'ai eu la chance de parler avec Maxime Marchand et Pierre Boisson. Maxime et Pierre ont été et sont les rédacteurs en chef du magazine de The Running Heroes Society, le magazine créé par Running Heroes et le groupe SoPress. Maxime est aussi rédacteur en chef de SoFoot et Pierre est journaliste pour Society et a notamment écrit l'enquête sur Dupont de Ligonnès. Et ce que j'aime dans The Running Heroes Society, mais finalement dans tout le groupe SoPress, c'est que ce n'est pas simplement des magazines de sport, mais de société. Ils parlent de sport, bien sûr, mais à travers des histoires et des récits, c'est toute la société qui est analysée. The Running Heroes Society est un média physique, ce qui est un vrai pari à l'heure des réseaux sociaux et des médias hyper réactifs à la moindre actu. Alors je vais vous le dire tout de suite, en contactant Maxime et Pierre, je n'avais pas très bien compris qui ils étaient pour le groupe SoPress. Je savais juste qu'ils étaient en charge de The Running Heroes Society, et en fait, en faisant mes recherches avant notre discussion, j'ai compris que je lisais tous les 15 jours leurs papiers, et c'est les seuls que je lis, la pression. On a parlé avec Maxime et Pierre de la confection d'un magazine papier sur le running à l'heure du digital, du savoir-faire SoPress, de la comparaison entre le cyclisme et la course à pied, on a même fait un petit débat sur la course à pied à la télé, et bien sûr, on a parlé d'Haïlé Gebrselassie. Avant de commencer, n'hésitez pas à smasher ce bouton abonnement pour ne rien louper des prochains épisodes de La Route. Vous êtes sur la route. Découvrez tout de suite l'épisode avec Maxime Marchand et Pierre Boisson de The Running Hero Society, Humans After All. Je fais les petits montages par la suite. Moi, je voulais juste commencer cette discussion par une question que je voulais vous poser parce que c'est... En fait, je lis SoFoot et même Society depuis très longtemps. Et quand je vois ce que vous faites avec The Running Heroes Society, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le don que vous avez pour trouver des thèmes ou des manières de traiter des thèmes que personne ne fait de cette façon ou personne n'a parlé de ces thèmes-là? J'en ai noté quelques-uns. Notamment le sexe et sueur, plonger dans les nuits chaudes du running, Dieu court-il, Vanessa Guide qui court, les Spiridons, la liberté vestimentaire. Enfin, il y a tous ces trucs-là qui sont dans The Running Heroes Society et que moi, j'ai vu nulle part ailleurs.
La manière dont on cherche les histoires, en réalité, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'on essaye d'être ouvert un peu à tout. On propose... C'est des conférences de rédaction qui sont ouvertes, qui sont un peu festives, où tout le monde vient avec ses idées. Et c'est un peu dans les discussions qu'il peut y avoir que finalement on arrive à trouver ce genre d'idées. C'est pas forcément quelqu'un qui arrive avec l'idée, mais c'est un peu en se renvoyant la balle comme un ping-pong qu'on trouve ça. Et puis après, c'est aussi un peu la force du groupe SoPress. C'est la curiosité et la culture générale de tous les gens qui y travaillent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialiste du foot ou spécialiste de la course à pied chez nous. C'est des gens qui sont intéressés partout, par la musique, du cinéma, de la culture, etc. Et qui, en fait, au détour d'un livre ou d'un article qu'ils ont lu, vont trouver une idée en se disant « Mais attends, mais ça, c'est super, on pourrait… Là, il y a une histoire qui n'a jamais été racontée. » Et on va le faire nous, on va creuser et on va en faire une histoire de 6, 8, 10 pages en fonction de l'intérêt du sujet, quoi. Mais c'est souvent comme ça qu'on trouve, je pense, les meilleures histoires.
Et je suis d'accord avec Pierre, c'est le fait qu'on ne soit pas spécialiste en fait. Et du coup, on n'a pas forcément d'œillères, on est ouvert à tout et on se dit bah, pourquoi pas. Alors que typiquement, si j'étais spécialiste d'athlétisme ou de running, Dieu court-il ? Jamais ça me vient à l'esprit comme question.
Bah, oui,
tellement
effectivement.
C'est tellement absurde, mais en même temps, à force de discussion ou autre, bah, ça nous vient à l'esprit parce qu'on se dit dans les conversations qu'on peut avoir, enfin, est-ce que dans les textes religieux, est-ce que ça parle de course à pied déjà en fait ? Et à partir du moment où ça parle de course à pied, bah, est-ce que on peut, et après la question est forcément, le titre est forcément provocateur. La question ne se pose pas forcément comme ça, mais c'était plus de savoir est-ce que les religions parlent de course à pied et qu'est-ce qu'elles en pensent, typiquement dans l'article auquel tu as fait référence.
Parce que moi, c'est effectivement, Maxime, quand on s'est eu au téléphone juste pour préparer, juste pour caler l'interview, effectivement, c'est aussi quelque chose que tu m'avais dit, que vous n'étiez pas spécialiste forcément d'ailleurs du foot ou de film, donc de course à pied. Comment vous, si ce n'est pas le cas, comment vous faites pour réussir à quand même comprendre les tenants et les aboutissants d'un sport ou d'un art comment vous faites pour finalement devenir pas spécialiste, mais s'y connaître un peu, quoi.
Bah, en fait, à partir du moment où tu es curieux et tu poses des questions, bah, c'est facile en fait. C'est juste que tu t'intéresses à quelqu'un ou à quelque chose et tu es curieux, et c'est le propre du journalisme en fait. C'est pour ça que Sopress, quand on demande quelle est la formule de Sopress, parce qu'on parle beaucoup des success stories des magazines Sopress, mais en fait, il n'y a pas de formule magique. En fait, c'est juste le retour à un ancien journalisme, un peu au journalisme de base, qui est que tu t'intéresses à ton sujet, tu es curieux, tu vas poser plein de questions, tu fais beaucoup de terrain. Et au tout début de SoFoot aussi, on n'hésitait pas. Moi, quand des potes de l'extérieur me demandaient qu'est-ce qui marche avec SoFoot, bah, c'est qu'en fait, t'as beau être un... Moi, j'étais en stage et au bout du deuxième mois, je suis parti faire un reportage à Bordeaux. Et à la fin de mon stage, je suis parti, ils m'ont envoyé en Algérie faire un sujet, tu vois. Et du coup, en fait, c'est surtout que, on n'hésitait pas et on n'hésite toujours pas à partir loin et aller sur le terrain pour faire des reportages, là où de plus en plus, avec l'économie de la presse et l'arrivée d'Internet, le journalisme se fait de plus en plus derrière un bureau, là où nous, on va sur le terrain. Et quand tu vas sur le terrain, tu comprends des choses que tu ne vois pas depuis derrière ton ordinateur, quoi, forcément.
Et c'est ce qui vient, enfin, en fait, le groupe Sopress va finalement complètement à l'encontre. Alors moi, je connais très, très peu de choses au milieu du journalisme, mais si on regarde ça d'un œil extérieur, finalement, on est assez proche d'essayer d'avoir le meilleur article, le meilleur référencement sur Internet pour avoir le plus de vues sur son site web. Le groupe Sopress, finalement, c'est tout le contraire. C'est le pari du papier aujourd'hui, où le papier, c'est presque un gros mot. C'est aussi finalement ça qui fait la réussite, c'est de pas uniquement survoler des sujets, mais d'y aller à fond, quoi.
Bah, c'est sûr que du coup on propose pas la même chose au lecteur, je pense, parce que quand tu lis un article sur Internet, c'est à mon avis de l'information assez pure et directe. De toute façon, le temps d'attention est très limité. Et nous, ce qu'on propose un peu à nos lecteurs, et ce qu'on aime lire aussi, hein, parce que voilà, c'est ce qu'on aime faire, c'est des articles plus longs qui sont des histoires en fait qu'on raconte avec des personnages et on essaye de saisir un peu ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils sont, en étant le plus proche d'eux. Et ça, en fait, on a besoin quand même de la longueur du papier, d'avoir des articles où le lecteur a le temps de les lire, parce que si c'est lu en 2 minutes sur un téléphone, on n'a pas le temps de raconter une histoire. Donc nous, c'est un peu ça aussi le pari du papier, c'est de dire ce qu'on propose aux lecteurs, c'est un peu une aventure, quoi. On t'emmène dans une histoire, on va te la raconter du début à la fin. Donc du coup, on a besoin, pour que tu la suives, d'avoir un magazine, d'avoir un objet entre les mains que tu vas... l'histoire, elle va prendre 5, 10, 15 minutes à te la raconter, mais ça passe par le... Je pense que ça passe notamment par le papier.
Ouais, ok. Et non, je pensais à ça parce que je me disais, là, quand tu parlais du magazine, je crois que ce soit Society, SoFoot ou tous les autres, c'est le seul perso que je lis du début à la fin et qui est construit de la manière à ce que, au début, souvent, c'est des contenus qui se lisent assez vite, de tête, genre Society, ça doit être peut-être où il y a une personne qui est mise en avant avec des petites phrases ou des trucs comme ça. Et après, on arrive dans des choses un peu plus longues. Et ça me fait penser, parce que j'en parlais avec quelqu'un qui me disait aussi que les trucs de vos magazines, c'est les seuls qu'on lit du début à la fin parce qu'en fait, on est embarqué dans comme finalement un bouquin, quoi.
Ben ça, pour le coup, vraiment, ça nous fait plaisir que tu dises ça parce que c'est exactement le mot d'ordre qu'on a quand on fait les magazines. C'est-à-dire que, un, on veut faire des magazines que nous, on aimerait lire, et deux, ce qu'on veut proposer au lecteur, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de lire du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait pour les pubs, il n'y a que des articles dont on a envie que les lecteurs le lisent. Alors, ouais, ils sont pas tous la même forme. Au début, effectivement, il y a des articles un peu plus courts. Moi, j'appelle ça des gâteaux apéro parce que tu commences souvent, voilà, il a besoin de picorer des petites choses. Parfois, quand tu t'ouvres ton magazine, bah, t'as deux stations de métro ou 5 minutes en bus à faire. Et donc, il faut que tu lises quelque chose assez, assez court. Il y a aussi un peu des petites friandises de dessert qui sont plus drôles, mais qui permettent, en fonction du moment où tu lis, en fonction de ton état d'esprit, ton humeur, de lire quelque chose de différent. Et puis après, il y a des gros morceaux que tu vas peut-être prendre quand t'es assis dans ton canapé tranquillement ou que t'as un long trajet en train, quoi. Et c'est vrai que voilà, on fait, il y a tout ce qu'on fait, on lui donne autant d'importance, que ça soit un petit article ou un très grand article, on a envie qu'à la fin tu le lises, quoi.
Le niveau d'exigence, c'est ce qui caractérise et le niveau de travail qu'il y a derrière toutes ces petites rubriques et tous ces papiers, ces grands papiers, en fait, est le même. Le niveau d'exigence est très, très fort en termes d'humour ou alors d'ingéniosité sur les rubriques d'entrée. Le niveau de travail est très, très haut sur les papiers centraux, sur l'exigence journalistique et le travail qu'ils vont demander, tant en termes de recherche d'informations, de qualité d'intervenant que d'écriture surtout. Et c'est vrai que quand tu prends un magazine de l'extérieur, tu te poses pas forcément la question de savoir comment sont agencés les articles les uns par rapport aux autres, mais il y a une vraie progression dans chaque magazine. Tu le retrouves aussi dans d'autres canards ou dans d'autres magazines. T'as toujours les rubriques d'entrée au Point, l'Express, au Nouvel Obs. Mais c'est vrai que si tu fais attention, tu feras attention que t'enchaînes jamais deux interviews sur le même pays, la France ou l'Europe. Tu vois, on essaie toujours d'avoir entre chaque article, quand tu passes de l'un à l'autre, que ça t'emmène dans différents univers, différents endroits, et même en termes de maquette, on fait attention très souvent quand on construit un magazine. Ça, tu le sais pas forcément, mais on essaye la plupart du temps et autant que possible d'imprimer toutes les pages, de les mettre sur une table et de voir la continuité et de voir celles qui se ressemblent trop à la suite, et tu les bouges de place, tu bouges les papiers de place. Donc chaque papier a aussi son existence en lui-même, mais il faut que ça crée un magazine homogène à la fin, quoi, quand tu tournes les pages et quand tu le lis d'une traite.
Bah, même au-delà de ça, il y a une DA du groupe Sopat, parce que là j'ai en tête justement le dernier livre qui est sorti de Trash Talk, qui est fait, je crois, la DA est faite par des gens de chez vous, de tête, je crois.
Ouais, fait.
Ça se voit en fait, j'ai juste vu des images dans leur vidéo, alors pourtant je ne l'ai pas eu en main le truc, mais ça se voit qu'il y a quand même une patte de chez vous, quoi.
Bah, la DA pour le coup du livre Trash Talk, c'est Peggy Cognier qui l'a faite, qui est aussi la DA de Society par exemple.
Avec Élise, on va appeler. Il y a aussi Élise qui l'a aidé, mais c'est vrai que c'est Peggy qui était à la baguette, et Peggy, comme le dit Pierre, est la DA de Society. Élise travaille aussi, elle travaille plus sur des campagnes de pub, mais elle l'a secondé, c'est juste parce que pour créditer les deux. Mais c'est vrai que c'était Peggy qui a la manœuvre. Donc forcément, tu retrouves une patte, un peu une influence, un peu sur tous les magazines, quoi.
Donc pour ceux qui connaissent pas Trash Talk, c'est le bouquin s'appelle, je crois, le plus grand livre du basketball ou un truc comme ça, et c'est la chaîne YouTube qui typiquement, moi qui ne suis pas du tout le basket, ben je regarde toutes les vidéos parce que il y a des histoires, il y a des coups, il y a des hauts, il y a des bas, et ceux qui tiennent ça, qui sont Bastien et Alex notamment, tiennent ça d'une manière très, enfin c'est hyper captivant, et ça me fait penser aussi au groupe Sopress, parce que c'est typiquement ça, c'est des fois on a des trucs qui on s'intéresse pas forcément, et d'ailleurs moi j'ai des messages de gens qui me disent ça aussi, on s'intéresse pas forcément à la course à pied, mais j'écoute ou je regarde parce que les histoires sont belles, et c'est ça aussi qui fait découvrir un sport finalement.
Bah, l'un des premiers, quand on parlait de SoFoot, ou quand moi j'en parlais à des copines qui sont pas forcément fans de foot, ou des copines qui me disaient que leur mec était abonné à SoFoot et qu'elles le lisaient, c'est que c'est un magazine que tu peux lire, SoFoot et tous les magazines maintenant du groupe Sopress, c'est des magazines que tu peux lire même si t'aimes pas le foot, même si t'aimes pas le cinéma pour ce film, même si t'aimes pas le basket pour Trash Talk, parce qu'en fait on raconte des histoires et voilà, c'est devenu un peu impensif entre nous, donc j'en rigole un peu là quand je vais te dire que le football est un prétexte, mais le football était un prétexte pour parler de la société, pour raconter des histoires, et en fait ça dépasse largement le cadre du football. C'est juste qu'est-ce qu'à travers le football ça raconte, ça dit de notre monde, de la société. Donc c'est pour ça qu'en fait très très vite tu dépasses le cadre du football pour parler de choses qui touchent tout le monde. Et en fait on a fait ça avec SoFoot, donc on a fait ça avec Pédale pour le cyclisme, on a fait ça avec Tampon sur le rugby, on a fait ça avec le cinéma sur ce film. Et en fait on s'est dit à un moment, pourquoi on a lancé Society, c'est aussi parce qu'on s'est dit qu'on n'a plus besoin forcément de prétexte pour parler de la société, et qu'on a lancé notre magazine de société. Donc c'est pour ça que, encore une fois, pour revenir à ta question, ta toute première question, comment on trouve les sujets, c'est qu'en fait on cherche aussi des sujets et des histoires à raconter qui dépassent le cadre purement et simplement de la course à pied ou de l'athlétisme, sinon on ferait une revue spécialisée.
Alors justement, tu présentes un peu tous les magazines que vous avez. Comment l'idée, est-ce que vous pouvez nous expliquer de comment le projet The Running Hero Society arrive et est créé?
Pas de souci, c'est un nom un peu compliqué.
Parce qu'en fait, j'ai des potes qui ont lancé The Running Collective. Alors moi, je confonds les deux, c'est un truc de fou.
Nous, on dit Running Heroes.
On dit Running Heroes, ouais. Mais ouais. Comme il y a déjà un magazine qui s'appelle Motor Heroes et Auto Heroes, on n'a pas pu s'appeler Running Heroes. C'est pour des questions de concurrence. Du coup, ça s'est appelé The Running Heroes Society, qui est un nom un peu compliqué. En fait, ça s'est lancé parce qu'en fait, on a donc un magazine de cyclisme qui s'appelle Pédale, qui est une fois par an, juste avant le Tour de France. Et en fait, les gens de Running Heroes, la start-up, aimaient beaucoup Pédale. Et dans Pédale, suinte quand même une vraie culture vélo. Et ils trouvaient qu'il manquait une culture running, qu'il n'y avait pas de magazine qui parlait bien de cette culture running, ou en tout cas qui la transmettait bien. Et ils se sont dit, ça serait quand même pas mal d'aller les voir, les gens de Pédale, et de leur proposer de faire un magazine en collaboration, un magazine plus sur la culture running. Donc c'était pas forcément au départ une envie de notre part, mais quand ils sont venus nous voir et qu'ils nous ont proposé le sujet, ça nous a emballé. Aussi parce qu'on est certains chez nous, c'est sûr qu'on est tous un prisme plutôt football à la base, mais on n'est pas que foot, on aime aussi d'autres sports, on n'est pas sectaire. Et moi-même j'ai couru dans ma jeunesse, et c'est pour ça que en ayant couru dans ma jeunesse, Franck, le boss, s'est dit à qui on peut filer ce magazine. Et puis c'est retombé sur moi parce que j'étais un des seuls à connaître un peu le monde du running à distance, mais plus le monde de la compétition, moins le monde du running de tous les jours. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé rédac chef de The Running Hero Society. Et l'idée aussi, là c'est un peu plus marketing, mais l'idée aussi c'est de se dire, quand t'es une startup comme Running Heroes, ça te permet aussi, quand t'as un magazine comme ça, et quand tu vas voir un magazine quand tu vas voir une entreprise qui fait des magazines, il va y avoir un magazine qui va porter ton nom, qui va être dans tous les kiosques, et en fait ça va être une sorte de publicité gratuite, ou même une publicité, si le magazine gagne de l'argent, ça va être une publicité pour toi où tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc tu vas faire parler de toi à travers un magazine qui va être dans tous les kiosques avec ton nom, et notamment au lancement d'un magazine, il y a pas mal de publicité qui se fait et de communication. Et du coup, c'était cette idée-là. C'était l'idée de, en même temps, parler de Running Heroes, en même temps d'essayer de développer une vraie culture running en France qui n'existe pas forcément. Et en développant cette culture running, t'invites des gens aussi à courir. Ça va pousser des gens à aimer ce mouvement, à aimer la course, à comprendre ce qui se passe un peu derrière. Et du coup, forcément, à terme, pour Running Heroes, plus t'as de gens qui courent, plus leur business peut marcher aussi. Donc c'est là, je suis rentré dans des considérations un peu plus business, mais en tout cas c'était une volonté de Running Heroes, et c'est comme ça que ce beau magazine est né au tout début. Il y a cela maintenant, j'ai peur de te dire des bêtises, mais j'ai l'impression
2016, je crois, non, c'est pas 2016.
Tu sais mieux que nous, alors. Ouais, je t'avoue, j'oublie les années, je me fais vieux.
Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça de mémoire. Et ouais, ça, y a un truc que tu dis, effectivement, que la culture running en France n'est peut-être pas assez développée, ou du moins est assez timide, donc notamment par rapport au vélo. Est-ce que dans d'autres pays, vous qui avez peut-être traversé un peu les pays pour voir ça, est-ce que c'est plus développé ou pas du tout?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que la culture running, elle est... En fait, nous, on a un peu un double public. qui est complètement différente. Tu as une culture running de personnes qui ont commencé il y a longtemps à faire de la course à pied, dans les années 70, dans les années 80, au moment de l'explosion en réalité de la course à pied démocratique, avec les premiers grands marathons, etc., qui à la base qui est un mouvement qui vient plutôt des États-Unis, hein, où ça a vraiment explosé à New York, etc. Donc cette génération-là, en fait, connaît bien le running, a une culture très forte, mais elle est peu développée. Et c'est des gens qui, a priori, voilà, sont intéressés par tout l'athlétisme en général. Donc ils ont une grande culture de l'histoire de leur sport. Et puis après, il y a toute une nouvelle génération qui s'est mise au running de manière beaucoup, beaucoup plus massive ces dernières années, avec, voilà, entraînés par les marques, entraînés par un peu la culture du bien-être dans la société, qui vont courir ensemble, faire partie de groupes de running, etc. Et eux ont finalement, c'est une nouvelle culture qui émerge, que l'ancienne génération ne connaît pas très bien. Et cette nouvelle génération connaît assez mal l'histoire de son sport. Et nous, l'idée, c'est justement un peu de les réconcilier, c'est-à-dire de parler à cette génération qui a commencé dans les années 80 à courir, de ce que sont les courses illégales, comme on l'a fait, les courses illégales dans Paris, ou le trail des escaliers de Montmartre, ou les clubs de sport qui se finissent parfois en club de rencontre. Voilà, raconter cette nouvelle culture, et puis en même temps, aux nouveaux adhérents, aux nouveaux adeptes du running, de leur parler de des premiers marathons de New York, de Marie-Jo Pérec, de ce qu'a représenté Hicham El Guerrouj pour l'athlétisme. Voilà. Du coup, il y a un peu l'idée, c'est vraiment de croiser ces deux cultures-là.
D'ailleurs, ces deux cultures, enfin, ça c'est mon avis, mais qui ne s'apprécient presque pas trop. Où le coureur, on les appelle, comme tu dis, la nouvelle génération, toujours très bien habillée, très bien équipée. Hein. Moi, le premier, la montre GPS, machin, bidule. Et quand je vois mon père, plus les années 60-70, qui, lui, c'est une paire de pompes et rien d'autre, et je vais courir comme ça, et qui ne comprend pas qu'il y a des trucs aussi de style et tout ça qui peuvent rentrer dans le milieu du running.
Mais tu parlais tout à l'heure de l'article Spiridon. En fait, le développement du running s'est fait aussi pas mal par... ça vient des États-Unis, surtout avec les marathons. Mais si c'est né dans les années 60, c'est qu'il y a une raison aussi. Il y a un mouvement de libération du corps et de libération du peuple. Et donc, c'est tout ce mouvement-là qu'on raconte dans la création de ce magazine suisse, Spiridon, qui était un magazine de mai 68, qui est né avec les années 60, et un magazine qui est un bébé de mai 68, et un peu révolutionnaire. Et du coup, l'idée, c'est vraiment une libération du corps, une libération aussi du fait que les femmes puissent courir, le fait que tu puisses courir en dehors des stades d'athlétisme. En fait, avant, la course à pied, c'était limité au stade d'athlétisme. C'est ce que me disaient les fondateurs du magazine Spiridon quand ils couraient dans les années 60. Quand tu courais en Suisse dans les années 60 à l'extérieur, dans la rue, t'es pris comme un ovni. T'étais mal vu, en fait, ça se faisait pas. Donc, et ça, quand t'es un coureur aujourd'hui au 21e siècle avec ta montre ultra connectée et que tu peux courir partout et que tu vois tellement de runners que ça te paraît tellement normal, mais en fait, de là à se dire qu'il y a 50 ans, 60 ans, c'était pas normal et t'étais vu comme un fou, et que surtout la fédération d'athlétisme voulait se garder son petit précaré et voulait absolument que ça se passe à l'intérieur des stades d'athlétisme, ça te paraît complètement fou, en fait. Et c'est pas mal de pouvoir raconter cette histoire-là aussi pour se dire que, en fait, si tu peux courir dans la rue aujourd'hui, c'est aussi grâce à ces pionniers-là, et tous ces pionniers-là aussi, qui étaient très, le mouvement mai 68, qui sont anticapitalistes. Donc forcément, quand peut-être que tu dois avoir des discussions avec ton père qui se demande... quand lui, il va avec sa paire de chaussures tout seul et qu'il voit que ça a été repris par les marques, ça doit peut-être le faire bugger, quoi.
Ouais, lui, tu vois, c'était peut-être les premières Pegasus chez Nike, et aujourd'hui, c'est le modèle le plus vendu, les trucs comme ça. Donc, c'est toujours des trucs qui font marrer, ouais. Et après, t'as Nike et toutes les trucs des lames carbone et tout ça. Enfin, ça devient presque des robots. Alors après, t'as les gens, ils disent que... c'est moi j'aime bien, je trouve que c'est l'innovation, je trouve ça plutôt cool, et t'en as d'autres qui sont contre ça. Donc c'est vrai que c'est des débats, en fait, et les débats finalement font avancer aussi le sport et font parler du sport. Donc c'est ça que je trouve aussi assez cool dans ces trucs là même si on n'est pas tout le temps d'accord, au moins il y a de la vie, quoi.
Ouais, c'est sûr, mais après t'as, enfin là c'est un débat, c'est un petit débat, je pense que c'est un débat ouais. Générationnel, mais c'est marrant de voir toute cette évolution là Et je pense que tu l'as dans des articles sur des épreuves, comme l'article qu'on avait pu faire sur le, le cross du Figaro, où tu as toute l'évolution un peu, même si c'est un autre type de course. Mais c'était vraiment très encadré à l'époque, et ça l'est de... Et maintenant, on va plutôt vers des courses, comme disait Pierre tout à l'heure, plus c'est des courses sauvages ou des courses underground, plus c'est cool, quoi. Donc,
C'est vrai qu'il y a un courant comme ça.
Ça rejoint aussi, en fait, c'est là où tu t'aperçois que c'est pas forcément l'histoire et pas forcément noire ou blanche, parce que les courses underground et les courses à quelques-uns dans un bois, c'était aussi les tout débuts des courses aux États-Unis. Les premiers, avant le marathon de New York, c'était juste des dingos qui couraient dans Central Park et qui se faisaient des marathons tous les dimanches. En fait, c'est ça la base de la course. Donc, tu vois qu'il y a aussi, effectivement, il y a des antagonismes, le rapport aux marques, le rapport à la consommation est parfois différent, mais il y a aussi des parallèles. En fait, c'est ça qui, nous, on se place pas d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement de voir cette évolution-là et de trouver à la fois les parallèles, à la fois les oppositions et de les raconter, en fait.
Et quand vous lancez un magazine comme celui-ci, est-ce qu'il y a une part le mot peut-être un peu fort, de peur ou d'anxiété par rapport à la réussite de celui-ci? D'ailleurs, est-ce que vous vous donnez un timing de se dire est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas?
Ça, c'est plus Running Heroes qui peut nous le dire, parce que c'est plus leur magazine que le nôtre. Enfin, c'est équivalent, mais c'est-à-dire que la question se poserait en toute franchise, si demain Running Heroes veut arrêter pour une raison ou pour une autre, est-ce que nous, on souhaite continuer un magazine sur le running? La question se pose. Je ne peux pas t'affirmer à 100% que c'est sûr qu'on va continuer, parce qu'il y a un modèle économique à trouver derrière et qui n'est pas forcément simple, surtout sur un magazine que tu sors deux fois par an. Tu vois, c'est pour ça que sur des magazines comme le cyclisme, on ne sort qu'une fois par an avant le Tour de France. Peut-être qu'on sortira un magazine sur le tennis. Si on sort un magazine sur le tennis, on sortira juste avant Roland-Garros. Parce que tu as une fenêtre de tir à l'année pour pouvoir sortir un magazine sur une discipline qui est le moment fort. Quel est ce moment fort sur une année de running où tu n'as pas forcément de compétition? Parce qu'on ne veut pas être non plus un magazine d'athlétisme. C'est pour ça qu'on aborde le sujet de l'athlétisme à travers ses athlètes. Mais parce qu'au final, quand tu as une conversation ou une interview avec le maître, par exemple, tu lui parles il court, quoi. Il court comme sur des distances plus courtes. Mais tu vas lui parler de la course, des sensations et tout. Mais donc, c'est pour ça que on n'a pas forcément d'attente sur ce magazine-là. Après, je pense qu'on est très content des chiffres par rapport au public qu'on peut toucher. Mais étant donné qu'on fait des magazines très mainstream sur du football et sur de la société, on sait quels sont les chiffres de vente. Et du coup, tu te dis, sur une niche, ça va être difficile d'aller chercher un public suffisant. Parce que ce public trouve déjà toutes ces informations sur Internet et quand tu lances un magazine papier, il ne se trouve pas toutes ces informations sur Internet, mais c'est difficile d'aller le capter dans les kiosques. Je ne sais pas si tu le sais, mais on est le pays, je l'avais appris lors de mes études en journalisme, on est le pays au monde où il y a le plus de références de magazines.
Je savais pas, non.
Il n'y a pas d'autre à vérifier, hein. Peut-être que mon prof depuis a changé cette phrase-là dans son cours, mais en tout cas à l'époque, moi, on avait appris qu'on est le magazine. T'as des magazines pour tout, t'as Sanglier Magazine, t'as Camping Car Magazine, t'as... Donc pour te trouver dans un kiosque, pour que le mec il te trouve, et si t'es mal placé, si t'es mal, c'est difficile, et pour se faire connaître en plus. Donc pour revenir à ta question, parce que j'ai digressé, je pense qu'on est très content. On est très content et je pense que Running Heroes est très content parce que c'est pour ça qu'il continue et que ça fait maintenant 4 ans et 2 magazines par an, c'est pas mal. Là où tu vois sur du cyclisme, on sort qu'une fois par an, on prend pas le risque de sortir deux fois par an, ou sur du rugby aussi une fois par an, quoi, juste avant le tournoi destination. Donc on est très content, mais c'est encore une fois, c'est un marché de niche, quoi.
C'est quoi qui manque à vous penser à la course à pied pour que justement parce que même si le cyclisme, vous le sortez qu'une fois, même si le rugby aussi, c'est des sports qui sont beaucoup plus populaires. On le voit, le cyclisme, et le Tour de France notamment, c'est le troisième événement le plus regardé au monde. Qu'est-ce qui manque à la course à pied pour que ça puisse arriver à ça? Parce que déjà, c'est un sport individuel, il n'y a pas d'équipe. Même si le cyclisme, c'est un sport individuel, il y a des équipes, il y a des têtes d'affiche qu'on connaît, qu'on aime. Il y a aussi le voyage à travers la France et tout, qu'on aime bien. Est-ce que vous pensez que la course à pied pourrait arriver à ce niveau-là?
La grosse différence pour le moment, c'est que la course à pied, c'est un sport de pratiquant plus qu'un sport de spectateur, en fait. Ouais. Il y a des dizaines de milliers de gens qui vont courir trois fois par semaine et qui regardent jamais une compétition à la télé. Le cyclisme, c'est l'inverse. Il y a des millions de personnes qui regardent le Tour de France, c'est l'événement le plus populaire de France, et qui n'ont jamais fait de vélo en professionnel ou même en amateur. Donc c'est ça. Et par ailleurs, tous les pratiquants de vélo regardent le Tour de France et plein d'autres courses. Donc ça, c'est pour le moment la principale différence. Mais je pense que c'est quand même en train d'évoluer. Parce que la course à pied se devient de plus en plus mainstream et que du coup les pratiquants sont un peu amenés à regarder des compétitions, et c'est vachement drainé par le marathon, en fait, par les exploits des sportifs actuels. En fait, le fait qu'il y ait une compétition entre Kipchoge et Bekele, qu'il y ait la barre des 2 heures à franchir, qu'il y ait des événements énormes qui soient organisés par les marques comme Nike, etc., ça pousse en fait ça pousse les pratiquants à regarder, en fait. Personne, le record de Kipchoge, il a été diffusé en direct sur l'équipe 21. Ça serait jamais arrivé il y a 15 ans. Il y avait à la limite le marathon de Paris qui était diffusé le dimanche matin, parce que c'est une case un peu creuse à la télé et que normalement c'est la messe. Donc une fois par an.
Ouais, c'est ça.
Mais sinon, il n'y avait rien. Et après, tu as les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, c'est différent, c'est de l'athlétisme, je dirais de l'athlétisme France Télévisions, quoi, et pas de manière péjorative, ouais, mais c'est des gens qui s'intéressent au sport en général, mais qui ne sont pas forcément des gens qui vont acheter un magazine de course à pied, qui vont être passionnés par la culture de la course à pied. Donc, je pense que c'est ça la principale différence, mais je pense que c'est en train de se transformer petit à petit.
Parce que c'est chiant la course à pied quand même à regarder la télé.
Le format n'est pas très télévisuel, en fait. C'est ce que j'allais te dire par rapport au marathon. Je laisserai Pierre y répondre après, mais c'est en fait ce que j'y pensais quand Pierre parlait là. Je me disais quelle est la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le Tour de France, quand on va me rétorquer, ouais, mais le Tour de France, c'est chiant. Mais en fait, non, le Tour de France.
Ça dépend, ça dépend.
Mais en fait, tu as des stratégies d'équipe, comme tu le disais. Ouais. C'est un feuilleton. Ouais. C'est pas un one-shot comme un marathon. Et puis, tu as plein de spectateurs sur les bords. Tu en as aussi sur des marathons, mais un peu moins, et là ils deviennent aussi acteurs. T'as les paysages du Tour de France sur un marathon, franchement c'est des paysages de ville, et puis tu vois moins de paysages, ils vont moins vite, en fait t'as moins d'histoires à raconter aussi, parce que t'aurais pu me rétorquer aussi sur le vélo, le mec qui suit que le Tour de France, il connaît pas forcément les coureurs, et c'est un peu vrai, mais donc tu connais pas forcément son histoire, mais
je suis pas d'accord, parce qu'en fait il y a tout le temps des Français, en fait, c'est surtout ça, il y a tout le temps des Français, et les gens ils aiment bien suivre les Français. On pensait à Richard Virenque ou des trucs comme ça, tu vois, et je pense que les gens ils kiffent ça aussi, quoi.
Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous pas totalement en réalité, parce que je pense qu'en fait ça peut être passionnant. Il y a plusieurs choses. Moi, quand j'ai regardé les 2 heures de Kipchoge, quand il passe sous les 2 heures, honnêtement,
non, ça c'était cool. Ça c'était cool. Ça j'ai bien aimé.
Il y avait une tension incroyable sur les 15 dernières kilomètres. Et en fait, c'est comme le Tour de France. Moi, le Tour de France, je trouve ça jamais chiant, pour la simple et bonne raison que quand t'as fait du vélo, tu sais que bien te placer dans le vent, c'est important. Pas tomber, c'est important. Et en fait, chaque moment de la course, il est décisif. Et dans un marathon, quand t'as couru, tu sais aussi que si tu regardes le 10e kilomètre et que tu regardes le peloton de tête, la manière dont se tient un coureur, son allure, sa foulée, ses rictus, etc., ça te donne plein d'indications. Et donc, du coup, en fait, c'est passionnant à suivre quand t'es un pratiquant. Et du coup, je pense que pour la course à pied, ça va se développer aussi, parce que regarder un marathon, ça peut être haletant. Les stratégies, elles existent dans la course à pied, partir vite, pas partir vite. Il y a plein d'exemples historiques qui montrent que t'as de la stratégie de course, et que c'est pas simplement le meilleur qui gagne à la fin. Et après, par contre, c'est vrai que le sport est toujours drainé par ces figures. Le fait que t'aies une rivalité Kipchoge, Bekele comme le foot a été drainé les dernières années par Messi, Ronaldo, le basket par Jordan Barclay dans les années 90, etc. Ça donne des histoires, en fait, à l'intérieur du sport, et ça permet d'attirer les spectateurs. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la course à pied aujourd'hui, elle c'est vrai qu'elle pêche par son manque de diversité dans les coureurs, et que voilà, le fait qu'il n'y ait pas de Français, bah, c'est vrai que ça attire peu le public français. Mais en même temps, tu as des figures qui sont en train de se développer quand même de manière assez massive aujourd'hui. C'est vrai que tu as tous les Kenyans qui sont très forts, mais tu n'as plus que les Kenyans. Nous, on a fait une course sur Julien Vanders, hein, qui est le suivi français, qui est suivi, même si voilà, il sera sans doute jamais champion du monde, mais il va se battre pour le record d'Europe. Tu as les frères Ingebrigtsen en Norvège, tu as aussi les champions américains qui sont en train de sortir. Ça se mondialise aussi, en fait. Les Kenyans et les Éthiopiens vont pas régner sur la course de fond éternellement et tout gagner. Ils vont avoir de la concurrence, et donc du coup ça rendra le sport plus intéressant et donc plus télévisuel, plus télégénique.
Non, c'est clair, même en France, hein, on voit qu'il y a une génération là, des mecs qui ont 22, 23, 24 ans, les Jimmy Gressier. Moi j'ai interviewé mes 10 frères là, qui courent Valence dans 2 semaines, qui promet un gros chrono. Non, ça bouge, et c'est clair. Je pense qu'il y a un moment où ça va, il y aura pas que l'Afrique des hauts plateaux qui va régner sur ce sport-là, c'est clair. Parce que je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Benoît Zet qui disait, je suis désolé pour eux, hein, mais ces gens, ils sont chiants, quoi. Et Benoît Zet, moi par exemple, c'est le seul mec dont je me rappelle de la course à pied quand j'étais petit. C'est juste parce que le gars, en fait, il ouvrait sa gueule et il faisait marrer les gens. Et au moins, ça faisait développer le sport. Alors, d'une certaine manière, ça faisait développer le sport.
Et parce qu'il était chauve, et parce que tu l'appelais Benoît Z aussi, t'as l'impression de retrouver le Z de Zorro.
Il a un nom, marketingment parlant, il a un nom génial. Alors, qu'il s'appelle Vigerski, je crois, mais il a un nom remplacé en Z.
Mon enfance, moi, c'était Haile Gebrselassie. Moi, j'étais fan d'Haile Gebrselassie. Je l'ai plus maintenant, mais j'avais même fait un classeur où j'ai été fan que d'une seule personne dans ma vie, au point de faire un classeur en découpant les photos. C'était Haile Gebrselassie, ouais. Et tu vois, ça manque de grands noms comme ça, un peu de grandes figures qui dépassent le cadre purement de course, quoi. Enfin,
Ouais, parce que Gebrselassie, il est inspirant aussi. Quand tu regardes des interviews de lui, il voulait faire des choses pour son pays, il courait pour son pays, il voulait développer l'Éthiopie, et d'ailleurs, il y réussit, parce qu'il investit dans des sociétés et tout. C'était pas juste un gars qui courait, quoi.
Et puis, il était tout petit, tu vois. On vient d'apprendre la mort de Maradona, mais t'as aussi un physique qui joue aussi, tu vois. C'est une image, c'est... et c'est vrai que comme dans le sport, on parle de t'as des normes de plus en plus physiques sur le type de joueur. Dès que t'as un joueur comme Valbuena, j'allais comparer Valbuena à Maradona.
Messi plutôt, mais toi, non?
Mais en fait, des joueurs dont qui sortent de ces normes-là, et ben forcément ça te marque. Alors que quand tous les coureurs des hauts plateaux, ils se ressemblent tous un peu physiquement.
Après, Bekele, il ressemble à Gebrselassie, hein.
Ouais, sûrement. Je t'avoue, je connais pas assez Bekele
peu son protégé, et d'ailleurs Bekele a battu presque tout ce qu'avait fait Gebrselassie ensuite, mais c'est notamment en 2003 où il gagne à Paris tous les trois, et justement Gebrselassie avait cette envie de transmettre aux plus jeunes, et notamment à Bekele. C'est en 2003 où juste avant il s'était fait cogner par les Kenyans, et en 2003, Gebrselassie dit c'est la dernière fois, et les trois gagnent, enfin ils finissent premier, deuxième, troisième, je crois que c'est le 10 000 mètres à Saint-Denis, ouais. à Paris, et Gebrselassie sait qu'il va pas gagner, mais il fait tout pour emmener Bekele premier, et ensuite il s'accroche et il finit deux, je crois, et c'est un troisième Éthiopien qui finit trois.
C'est moi qui vais vous poser une question là, mais typiquement, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Gebrselassie, j'arrive pas, moi, je connais pas assez le. Je réponds à un podcast sur la course à pied, mais je connais pas assez la course à pied, c'est ça qui est marrant, pour savoir si Gebrselassie, à l'époque, et dans l'aura qu'il avait, et l'aura médiatique, et l'attention qu'il pouvait avoir autour de lui, et qu'il pouvait y avoir à l'époque aussi autour de la course à pied, est-ce que vous pensez que c'était plus gros à l'époque, ou c'est juste moi, parce que comme j'étais fan à l'époque et que je faisais la course à pied, j'ai l'impression que c'est plus gros que Bekele, ou Bekele est bien plus gros et la course à pied est bien plus grosse aujourd'hui et bien plus médiatisée qu'à l'époque, quand on dit que ça manque de culture running?
Pierre, tu veux répondre ou...
moi je enfin vas-y, peut-être toi.
Juste... moi je... enfin, alors en 2003, alors
la question s'adressait surtout à toi.
Gabriel Selassie, alors je ne sais plus quand il a pris sa retraite, mais tu vois, 2003, moi j'avais 10 ans, donc il faut que je m'en souvienne. Mais je pense que la culture est plus forte aujourd'hui. Par contre, Gabriel Selassie, même à l'époque, parce que c'est l'époque aussi d'Ishamel Guerrouge, c'est des mecs qui ont gagné plusieurs championnats olympiques en fait, d'affilée. Et quand tu regardes l'histoire, c'est hyper rare. Et c'est ça, en fait, qui les a fait rentrer dans la légende, ces mecs-là. Ils n'en ont pas gagné. Enfin, alors, Ishamel Guerrouge s'est planté deux fois aux Jeux Olympiques, mais autrement, il gagnait tout. Donc, c'est un peu différent.
C'est ça qui l'a fait rentrer dans la légende aussi.
Aussi. Et c'est qu'en 2004, il gagne deux fois. Bon, mais il avait été, je crois, trois fois champion du monde avant. Il avait le record du monde du 1500 et tout. Enfin, en fait, les mecs, ils gagnent tout. Et c'est ça qui les fait rentrer dans la légende. Mais je pense que même en 2003, ou je crois que c'est 2000, ou c'est la 2000, je crois, la ligne d'arrivée avec Paul Tergat ou sur le 10 000, c'est déjà une légende, le mec. Hein, et c'est déjà un des plus gros du sport. Et aujourd'hui, il est au même niveau que des Kipchoge, des trucs comme ça. Après, la différence avec Gebre Selassie, c'est qu'il est allé tard sur marathon. Et donc, il n'a pas pu aller jusqu'au max sur marathon. Malgré tout, je crois qu'il a eu beaucoup de records du monde. Il a gagné beaucoup de marathons emblématiques. Mais c'est juste qu'il est allé tard sur le marathon. Mais autrement, au-delà de ça, pour moi, c'est top 3 de meilleurs coureurs de tous les temps.
Ok. Bon, bah merci pour cette
je analyse. Pense. Après, c'est mon avis.
Et alors, c'est marrant parce que tu parlais de Benoît Zedd, mais petit scoop, il y aura dans le prochain Running Heroes qui va sortir en mars une très 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 grosse interview de Benoît Zedd.
Ce mec-là, moi, il me fait marrer parce qu'on dirait Cantona. Pour moi, c'est Cantona de la course à pied.
Ouais, en plus mesuré sur certains sujets, donc encore plus
oui,
intéressant.
Oui, peut-être. Mais je trouve qu'il n'a pas peur d'ouvrir sa gueule, quoi. C'est ça que je trouvais ça assez drôle. Il y a une interview de lui sur un autre podcast qui est RMC Running. Et ouais, pendant une demi-heure, tu ne t'emmerdes pas, quoi. C'est assez drôle.
Ouais, il est très bon. Et il révèle pas mal de choses dans l'interview que j'ai déjà lue, là, qui a déjà été faite et qui est vraiment top.
Et justement, alors ça, c'est une question purement perso. Comment vous faites pour réussir à avoir tous ces mecs-là sur les magazines?
Sur tous les magazines? Juste sur le magazine de running.
Concentrons-nous sur le magazine de running.
Sur le magazine de running, j'allais te dire, en fait, là où c'est le plus dur maintenant, c'est le football. Donc, quand tu pars de SoFoot, après, pour faire des magazines sur le rugby, le vélo ou le running, c'est vraiment très facile, surtout quand tu as 6 mois pour le faire. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus disposés à nous répondre, que ce soit Usain Bolt, qui est le plus grand athlète, en tout cas sur sprint, j'allais dire le plus grand athlète de tous les temps, peut-être pas, mais en tout cas, médiatiquement, enfin, tu vois, ouais. C'est fou. Et même lui, tu peux l'avoir en 6 mois, tu peux l'avoir, quoi. Alors qu'en foot, si tu veux avoir un président de la République, tu mets 1 an, 2 ans à l'avoir. Zidane, on a mis, je pense, 10 ans à l'avoir, Zidane, tu vois. Donc en fait, quand tu viens du foot, tout paraît vraiment bien plus simple parce que les gens sont bien plus normaux. C'est aussi qu'ils sont bien plus normaux parce que dans le foot déforme tellement, le foot prend tellement de place que ça déforme les joueurs et les footballeurs et les gens qui travaillent. Donc parfois, c'est un peu à leur dépens. Quand je te dis ça, que c'est difficile d'avoir Zidane, j'en veux pas à Zidane, j'en veux à tout l'entourage et tout le système autour, quoi, qui rend ça très très compliqué. Mais c'est pour ça que c'est très facile de les avoir. Parce que, en fait, déjà, d'une, t'as des réponses tout de suite, même quand il y a un agent ou qu'il y a un responsable presse, ils te répondent. Donc, t'as un début de dialogue, et à partir du moment où le dialogue se lance, c'est assez facile de les convaincre parce qu'aussi, on leur propose une interview où ils vont parler pas que de course à pied, mais on va parler de plein d'autres choses. Et une fois que t'as fait une interview dans ce style-là, tu envoies cette interview à l'attaché de presse ou à l'agent, tu dis, on a fait cette interview-là, par exemple, avec Marie-Jo Pérec. L'idée, c'est que ces interviews un peu, j'aime pas trop l'expression, mais 360 degrés, où tu parles un peu de tout. Et souvent, ils aiment bien ça. Et le fait qu'on puisse aussi installer l'interview, c'est-à-dire prendre le temps, leur dire, on vient là où vous êtes, on va prendre une demi-journée à une journée. Et c'est comme ça que tu peux trouver avec des interviews qui durent 3, 4, 5 heures. Et en fait, l'idée, et le but de ces interviews, c'est que ce ne soit pas des interviews, justement, que ce soit des discussions où la personne oublie et que le journaliste oublie aussi qu'il est dans une interview, oublie ses questions et puis que ça se transforme en discussion. Et c'est là que tu peux sortir que ressortent les meilleures réflexions, les meilleures idées, les meilleures anecdotes, les meilleures histoires, quoi.
Alors, je sais pas si c'est une bonne comparaison ce que je vais faire, mais ce que j'aime, moi, l'autre truc que j'aime bien aussi, c'est Intérieur Sport. Est-ce que tu me dis, fais penser à ça, où ils viennent pendant eux un an, des fois plus, faire des reportages justement pour avoir un peu les coulisses, ben, l'intérieur justement de ces sportifs aussi. Donc vous restez jusqu'à une demi-journée avec l'athlète pour faire des interviews. Ok, c'est intéressant.
C'est le minimum, hein. Bah, c'est vraiment parfois. Les RP, ils sont les responsables presse.
RP, ouais.
Non, mais parce que les auditeurs savent pas forcément ce que c'est qu'un RP. Parfois, on utilise des acronymes, mais ils buguent un peu. Et en fait, le meilleur moyen, c'est si tu veux que ton interview elle soit l'interview ultime ou la meilleure interview, ce qui est notre objectif presque sur chaque interview, parce qu'il y en a certaines avec des politiques où tu sais que ça va être très très compliqué, mais l'objectif de départ, ça sera de l'interview ultime. Tu te dis, si je veux ressortir la meilleure interview, vaut mieux que j'en fasse 5 heures et je garde une heure, plutôt que j'en fasse une heure et que je doive passer une demi-heure d'interview, quoi. Donc, c'est ce que je dis avec tous les journalistes, tous les apprentis journalistes, c'est que le plus tu auras, le meilleur sera à la fin le nectar que tu peux garder, quoi, forcément. Alors, parfois, tu tombes aussi sur des gens qui sont très difficiles et tu auras beau passer une demi-journée ou une journée avec eux, il va rien en sortir. C'est assez rare. Mais j'ai pas d'exemple sur le running, j'ai des exemples sur le foot, mais
on ne donnera pas de nom.
Pas de problème. Les gars, je voulais finir juste par vous, est-ce que vous courez ? Alors Maxime, j'ai compris que tu courais plus. Pierre, est-ce que toi tu cours ?
Moi je cours, ouais.
Moi j'ai couru pendant le confinement, mais je cours plus de manière aussi fréquente que Pierre, où Pierre peut s'aligner sur des petites compétitions. Donc moi c'est vraiment pour maintenir en forme, et comme j'ai des c'est vraiment très personnel, mais comme j'ai des problèmes au genou, je préfère garder et faire du foot une fois par semaine plutôt que d'aller courir et de prendre le risque de me blesser en faisant mon petit footing que je pourrais faire en tapant derrière un ballon. Donc je vais laisser Pierre répondre plutôt.
Et donc Pierre, toi tu cours pour le plaisir, ou alors tu as derrière en tête des idées d'objectifs, même si bien entendu on n'est pas professionnel, mais
Je cours pour le plaisir. Après, je me fais des marathons une fois. En fait, je fais un marathon tous les ans ou tous les deux ans, et je me fixe du coup des objectifs. Mais bon, je suis pas. Tu vois, mon record c'est 3h10, donc je suis pas non plus un grand athlète. Faut pas.
Ah bah c'est pas mal.
Mais voilà, j'aime bien courir. Je cours 3 fois par semaine et je me fixe un peu des objectifs une fois par an, histoire de faire un peu
pimenter quoi,
pimenter un peu le truc et pas faire simplement des sorties comme ça tranquillou. Mais j'aime bien aussi pour le coup avoir un peu à l'ancienne, la génération dont on parlait, mais que la course reste un plaisir, et c'est surtout et pas une compétition permanente avec les autres ou avec moi-même, mais partir sans, moi je cours jamais sans, avec de la musique, et simplement profiter du fait d'être à l'air libre, d'être dans la nature quand je peux, et de profiter du plaisir pur de courir, quoi. Donc je veux pas me fixer des objectifs permanents de 10 km ou etc, quoi. J'aime bien que ça soit avant tout un plaisir.
Ok, parce que vous disiez que vous connaissiez pas le monde de la course à pied, mais vous courez quand même, donc en soi on sait de quoi on parle.
Mais tu connais la sensation de ce que c'est de courir, d'aller courir un peu en nature et de te faire un peu mal, mais tu ne connais pas au point d'être connecté, d'avoir ta montre, d'être sur Strava, pour citer que Strava, où on a des potes qui, eux, vraiment cherchent des records et tout, et qui cherchent qui sont omnibilés par ça, et qui vont regarder toutes leurs stats, qui vont faire des cartes ou des maps, ou qui vont essayer de faire un tracé, ou qui vont tout recenser. Mais le plaisir pur de courir, je pense qu'on le connaît tous, hein. C'est le sport que tu fais à l'école, en EPS, tout le monde a fait un cross UNSS, c'est pour ça qu'on a fait aussi des stories des cross UNSS au début de Running Heroes. C'est que c'est le sport, quoi. Enfin, c'est vraiment le sport que tu fais à l'école, quoi. Et tout le monde se souvient du cross UNSS, on a tous fait, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais à se les peler en hiver et tout. Donc cette sensation-là, on l'a tous eue au moins une fois dans sa vie, quoi. Sauf si on était dispensé, ça reste le sport, quoi. C'est le sport le plus simple. Bah, tu mets tes chaussures, tu pars dehors et tu cours, quoi.
C'est ça qui est cool avec la course à pied. C'est effectivement ça, c'est que tu as juste besoin d'une paire de pompes, tu peux courir partout normalement.
C'est ce qui le rend universel.
Tu parlais de Strava. Je sais pas si vous aviez entendu cette histoire-là, là, où c'était des mecs de l'armée américaine qui avaient couru et qui avaient allumé leur Strava, et donc ils avaient synchronisé ça, Et sauf que ben, la base américaine avait été repérée par l'ennemi, je ne sais plus lequel, grâce à Strava. Enfin, à cause de Strava.
Il y en a aussi à la DGSI, je crois aussi.
Ouais.
Il y a une histoire à la DGSI. De...
Il y avait des agents de la DGSI qui couraient autour de la DGSI. Ouais. Et du coup, ils avaient été repérés parce qu'ils faisaient toujours le même parcours et que leur compte Strava était lié à des compétitions, à des résultats de compète. Et dans ces résultats de compète, il y avait leur nom et leur identité. Donc, ils avaient été démasqués comme ça.
Ils sont cons. Je sais que les Américains, ils avaient gueulé sur ce travail. Ils avaient dit, ouais, enlevez ça et tout. Et ce travail a juste répondu, bah, en fait, ils ont juste pas à courir avec des montres et on a fini le problème, quoi.
Ouais. Enfin, bon.
Parfait. Bah, Maxime et Pierre, merci beaucoup d'être venus sur la route. Le prochain numéro sort quand, d'ailleurs ?
En mars de l'année prochaine.
Mars de l'année prochaine, et ben on sera là pour ben pour l'acheter, et je pense que ben on verra comment la période sera à ce moment-là, mais on aura sûrement les grandes affiches du magazine sur les kiosques, justement, parce que souvent on l'a, non?
Ouais, je pense qu'on l'aura, ouais, enfin, espérons.
Parfait, ben Maxime et Pierre, encore merci beaucoup pour votre dispo, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était hyper cool, et j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.
Merci à toi.
À bientôt.
Ciao.
Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Route. Ça a été un véritable kiff de parler avec Maxime et Pierre. Encore merci à eux d'être venus sur La Route pour parler de ce qu'on adore tous, la course à pied. J'espère que cet épisode vous aura plu et que surtout vous aurez appris des choses, parce que c'est le but que j'ai envie de transmettre avec La Route. Et d'ailleurs, si vous aimez La Route, n'hésitez pas à noter le podcast et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Grâce à ce petit geste, ça permet à de nombreuses personnes de rejoindre l'aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors pour ça, un énorme merci. Et n'hésitez pas à le partager aussi à vos potes qui courent et qui aiment découvrir des nouvelles choses. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire directement sur mon Insta ou par mail que je vous mets dans la description du podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Perso, moi je vais profiter de ces 3 heures autorisées. Et n'oubliez pas, tout dépend de vous. Ciao.